Bonjour à tous. Merci à Jean-Noël puis au groupe de louanges pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci pour vos voix aussi. C'était un temps bienfaisant pour moi ce matin de nous entendre tous chanter en réponse à ce texte de Néhémie. Nous sommes au 9e chapitre de ce livre de Néhémie. Et si vous avez été avec nous lors des chapitres précédents, vous savez que ce livre nous parle du réveil. Et le réveil, c'est l'intervention spécifique de Dieu pour transformer nos vies en nombre et en profondeur. Et en fait, si vous vous souvenez, ce livre, il a commencé avec le réveil d'un homme. Un homme dont la vie a radicalement changé. Lui qui était au service du roi au loin vient à Jérusalem. Il a pris à cœur le peuple de Dieu et il va reconstruire ses murailles. Et toute cette partie, c'est souvent ce dont on se rappelle de Néhémie. Quand on parle de Néhémie, on se rappelle de ce gars qui a une truelle et une épée de l'autre côté et qui construit cette muraille. Mais en fait, au chapitre 6, la muraille est terminée. Et le livre continue. Et nous ne sommes même pas à la moitié du livre. Parce que ce que nous avons vu au chapitre 7, c'est que derrière la muraille, il y a un peuple qui est là. Plus de 40 000 personnes sont là. Et derrière le réveil d'un homme, nous assistons au réveil d'un peuple tout entier. Et tout commence par le retour à la parole. Et c'est vraiment très marquant quand vous regardez le début du chapitre 8, les premiers mots sont « Tout le peuple se rassembla comme un seul homme ». Imaginez cette foule de milliers de personnes qui vient pour quoi faire ? Pour écouter le livre de la loi de Dieu. Les hommes, les femmes, les enfants sont là tous ensemble. Ils viennent, ils écoutent Esdras, les Lévites, qui lisent la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Et en même temps qu'ils lisent, des Lévites sont là et ils viennent expliquer la parole de Dieu. Dans notre groupe de maison, mercredi, quelqu'un m'a fait remarquer que le Lévitique, ce n'est pas vraiment facile à lire. Alors en même temps que la parole est lue, des gens se déplacent dans la foule et l'expliquent, la parole. Vous savez pourquoi ? Parce que la puissance de la parole n'est pas dans les mots, mais dans le sens. La puissance de la parole n'est pas dans les mots, mais dans le sens. C'est quand nous comprenons ce que Dieu dit dans sa parole que cela touche nos intelligences, nos cœurs. Et nous voyons très vite dans Néhémie 8 que le peuple est saisi, il pleure. Et ensuite, Néhémie appelle ce peuple, il leur appelle, mais la joie de l'Éternel sera votre force, et ce peuple se réjouit de la parole de Dieu. Dans la fin de ce chapitre, nous voyons que cette parole qui est entendue, qui est comprise, change les vies. Elle transforme les vies. Il regarde dans cette parole, il voit qu'à cette époque-là, Dieu avait commandé à ce que l'on fabrique des cabanes pour se souvenir du soin que Dieu avait eu pour eux dans son peuple. Et vous savez ce qu'ils font ? Ils cherchent des branches et ils font des cabanes. Quand nous comprenons la parole de Dieu, elle touche nos cœurs, elle nous remplit de joie, de reconnaissance et nous transforme, elle nous pousse à l'action. Et c'est pour cela que dimanche après dimanche, nous prêchons la Bible, texte après texte. Nous croyons que c'est comme cela que Dieu transforme nos vies. Nous écoutons ensemble la parole. Ensuite, elle est expliquée, appliquée au contexte que nous vivons tous ensemble. Mais c'est aussi pour cela que nous étudions la parole dans nos groupes de maison, avec cette volonté d'arriver tous ensemble à une même compréhension de ce que Dieu veut nous dire. C'est pour cela que nous demandons à James Elihu Simpson, qui est directeur de l'Institut biblique belge, de venir nous voir le 3 octobre, de passer une journée avec nous et de nous présenter les psaumes, pour que nous puissions mieux comprendre comment les psaumes font écho à nos vies d'aujourd'hui. C'est pour cela que tous ceux qui enseignent les enfants sont encouragés à être formés à l'interprétation de la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous venez nous rencontrer avec vos joies, avec vos peines, nous vous répondons avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous transforme lorsqu'elle prend son sens dans nos cœurs. Souvenez-vous des pèlerins d'Emmaüs. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils l'ont vu chasser des démons. Ils l'ont vu ressusciter des morts. Ils l'ont vu prendre soin de ceux qui l'entouraient. Ils l'ont entendu parler du royaume des cieux. Ils ont cru en lui. Ils ont cru qu'il était le Messie promis. Mais Jésus est mort. Et ils sont tristes, abattus. Un homme se joint à eux. Ils ne le reconnaissent pas, mais c'est Jésus qui les rejoint en chemin. Et ils commencent à raconter à cet homme le désespoir qu'ils ont de leur foi déçue, de cet homme en qui ils avaient cru et qui est maintenant mort. Et vous savez comment Jésus leur répond ? Homme sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Ou autrement dit, vous comprenez vraiment rien à la Bible. Et vous savez ce qu'il fait ? Il leur explique, il leur raconte la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les livres historiques, les livres de sagesse, les livres prophétiques, et il leur explique que tout cela parle de lui. Plus tard, il se révèle à eux comme étant le Jésus, le ressuscité, et il disparaît. Et vous savez ce qu'ils disent ? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il expliquait les Écritures ? Notre cœur ne brûlait-il pas quand nous avons compris que les Écritures parlaient de lui, que nous avons compris ce que les Écritures annonçaient, cet Ancien Testament ? Ils se lèvent, ils font demi-tour, ils vont à Jérusalem et ils proclament Jésus-Christ ressuscité. La parole expliquée a touché leur cœur, les a remplis de joie et leur a fait changer de direction. Leur vie n'est plus la même à partir de ce moment-là. Le 24e jour du mois, le peuple qui avait connu la joie, qui avait fait la fête, prend conscience de sa responsabilité collective, de leur histoire, de leur responsabilité individuelle. Ceux qui avaient désobéi à Dieu, nous avons vu dans le début de ce chapitre, avec des alliances illicites, viennent seuls. Juste entre parenthèses, ce que nous montre ce texte, c'est que quand un chrétien se marie avec un non-chrétien, c'est le chrétien le problème. C'est lui qui désobéit. Le non-chrétien ne fait rien de mal. Je m'arrête là. Nous avons un retour à la parole. La parole est encore lue 3 heures durant et la parole agit. Et comment est-ce que la parole agit ? Le peuple confesse ses péchés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un réveil véritable commence par la parole qui nous pousse à la confession. Et je voudrais que nous voyions 2 choses à propos de la confession dans ce texte. Confesser, c'est dire la même chose que Dieu sur Dieu. Confesser, c'est dire la même chose que Dieu sur nous-mêmes. Confesser, c'est dire la même chose que Dieu sur Dieu. Écoutez l'invitation des Lévites pour le peuple au verset 5. « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu. Il existe de toute d'éternité en éternité. Que l'on bénisse son nom glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction, ce que toute louange peuvent exprimer. » Wow. Wow. C'est juste ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est wow. Regardez Dieu, il est grand, il est plus puissant, plus glorieux, plus que ce que je peux le dire. Et il commence alors une prière de confession qui commence au verset 6. Cette prière vient de la parole qui a été lue auparavant. Ils ont lu la parole de Dieu, ils ont lu la Genèse, l'Exode, le Lévitique, et cette parole va les conduire à confesser Dieu. Et je voudrais faire 3 observations sur cette confession qui nous pousse à dire la même chose que Dieu sur Dieu. La première chose, c'est que la parole nous conduit à regarder à Dieu avant de regarder à nous-mêmes. Et peut-être que c'est un de mes travers. C'est que quelquefois, je me rends compte que j'ai dévié, que j'ai péché. Et ce qui me préoccupe, en fait, c'est mon péché, en fait. Ce qui me centre, c'est ma faute. Et ma confession est tout de suite centrée sur moi. Mais regardez ici, la parole pousse à regarder tout de suite, premièrement, à Dieu. Le mot-clé de toute cette section, c'est « toi ». Tu, c'est toi éternel, c'est toi seul qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée. C'est toi qui as choisi, tu as trouvé, tu as fait alliance, tu as promis, tu as agi, tu es juste, tu as entendu, tu as vu, tu as accompli, tu savais, tu t'es fait la réputation qui la tienne aujourd'hui. Tu as fendu la mer, tu as précipité les poursuivants, tu as guidé ton peuple, tu es descendu, tu leur as parlé, tu leur as donné, tu leur as fait connaître, tu leur as prescrit, tu leur as donné du pain, tu as fait sortir de l'eau du rocher. Tu as ordonné d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Tu, c'est toi. La première chose, c'est que la parole de Dieu nous pousse à regarder premièrement à Dieu. En fait, ce n'est pas un hasard qui a conduit le peuple là où il est. Ce n'est pas le ballottement incroyable d'événements incontrôlés dans leur vie. Mais Dieu a agi de manière continue depuis la création jusqu'à ce jour. Et il en est de même pour nous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut. C'est parce que c'est dans le plan de Dieu, rien n'est dû au hasard dans nos vies. Si nous sommes totalement responsables de nos choix et de nos actes, rien n'empêche Dieu d'accomplir ses plans envers nous. La deuxième chose que j'aimerais que l'on voit, c'est que la parole de Dieu nous conduit à confesser la véritable place de Dieu. Il est le Créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire qu'il est le seul légitime propriétaire de tout l'univers. Regardez les astres célestes dans le test prosterne devant lui. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu infini. Il est celui qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Il est le Dieu avec qui nous devons faire avec. C'est un peu comme le patron de votre entreprise. Vous savez, le patron qui possède toutes les actions de l'entreprise. Peut-être que vous ne l'aimez pas. Peut-être que vous trouvez qu'il prend des décisions qui vous semblent injustes. Peut-être que vous feriez des choses différemment que lui. Mais il est le patron. Il n'a pas besoin de justifier son autorité. Il est chez lui. Il est chez lui et les choses fonctionnent selon sa volonté. Nous devons apprendre dans nos vies à considérer Dieu comme étant Dieu. Il a toute autorité. La troisième chose que nous pouvons voir, c'est que la parole nous conduit à confesser l'œuvre de Dieu dans nos vies. Regardez la suite. Tu as choisi Abraham. Dieu pourrait être un Dieu puissant, mais aussi un Dieu indifférent. Mais pas du tout. Regardez, il voit Abraham. Il voit son cœur. Il s'approche de lui. Il fait alliance avec lui. Avant-hier, j'ai discuté avec quelqu'un parmi vous et je lui demandais comment il s'était converti. Et il m'a dit, Dieu m'a trouvé. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Notre Dieu est un Dieu qui vient à nous. Il est à l'initiative de notre salut. Il fait une alliance avec Abraham, une alliance qui le dépasse complètement. Ses enfants vont hériter d'un pays où coule le lait et le miel, un pays où ils vivent, où vivaient alors des peuples qui étaient réputés pour leur injustice. Pourquoi fait-il cela? À cause de la justice d'Abraham? Non. Regardez la fin du verset 8. Tu as agi ainsi parce que tu es juste. C'est à cause de sa propre justice que Dieu agit. Nous ne méritons rien. Dieu vient nous chercher. Et il s'engage. Le peuple continue sa confession en se souvenant comment Dieu a arraché son peuple à l'Égypte. Commencé par sa seule intervention qui les a délivrés, par sa seule puissance. Comment il a ouvert la mer devant eux, comment il l'a refermée sur leurs ennemis. La parole nous pousse à confesser que nous ne contribuons en rien en notre salut parce que Christ a tout accompli. Je ne sais plus qui ajouter, nous n'avons fait que le rendre nécessaire par notre péché. Mais nous voyons aussi un Dieu qui prend soin de son peuple jour après jour, dans leurs besoins, au quotidien. Un Dieu qui est là, un Dieu qui s'intéresse à notre vie. La troisième chose que nous pouvons voir, c'est que la parole de Dieu nous conduit à confesser la grâce de Dieu. Ils ont lu la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, et qu'en ont-ils conclu? Que Dieu est un Dieu de grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne traite pas le peuple selon son propre mérite. Le peuple a été réfractaire, nous lisons. Il a été arrogant. Ils n'ont pas écouté les commandements. Ils ont même voulu se trouver un nouveau chef pour retourner en Égypte, préférant l'esclavage à la liberté nouvellement offerte par Dieu. Mais regardez à partir du verset 17. « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce. Tu es rempli de compassion, long à la colère, riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Non, tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu en disant « Voici les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, commettant ainsi l'acte le plus insultant devant toi. Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les guider sur le bon chemin pendant la nuit, ni la colonne de feu éclairer pour eux pendant la nuit le chemin qu'ils devaient suivre. » La Bible compare régulièrement l'idolâtrie à l'adultère. Quand nous rejetons Dieu pour adorer sa création plutôt que le Créateur, Dieu considère cela comme un adultère. Imaginez ce jeune homme qui est fou, amoureux de sa femme, et qui un jour découvre qu'elle le trompe à longueur de journée. C'est ce que vit Dieu. C'est ce que Dieu dit qu'il vit. Que lui diriez-vous? Que diriez-vous à ce jeune homme? Quel conseil donneriez-vous à ce jeune homme? Regardez la réponse de Dieu. Il ne les a pas abandonnés. Malgré le fait qu'ils aient commis l'acte le plus insultant envers lui. Au contraire, il leur a donné son bon esprit pour les rendre sages. Au contraire, il a comblé leurs besoins en leur donnant la manne, de l'eau, des vêtements, des chaussures qui ne s'usent pas dans le désert. Au contraire, il leur a donné la sécurité en les aidant à conquérir les royaumes à la frontière du pays promis. Au contraire, il a accompli toutes ses promesses envers eux en leur donnant le pays de Canaan, un pays qui était tout prêt pour eux. Les maisons, les citernes, les cultures, tout était là, prêt pour eux. Ils ont mangé à satiété au point de grossir. C'est bon, j'ai un peu de marge. Ils ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. Non mais c'est incroyable. Dieu est en train de dire, vous êtes un peuple qui me trompe à longueur de journée. La grâce, c'est que moi je vous pardonne. La grâce, c'est que moi je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec Abraham. Voici la grâce de Dieu qui donne tout à son peuple selon son propre engagement alors qu'il ne méritait rien. Et voilà comment commence le réveil. Par une confession où la parole nous conduit à dire la même chose que Dieu sur Dieu. À réaliser ce que Dieu est et ce qu'il fait. Mais en fait, vous voyez que cette confession continue en fait. Et quand vous regardez comment le peuple continue, en fait il continue en disant aussi la même chose que Dieu sur nous-mêmes. Et là aussi, je voudrais faire deux observations. La première, c'est que la parole nous conduit à reconnaître notre péché. Parce que la confession continue avec ce mot « pourtant ». Et avant de m'intéresser à ce bout de texte, je voudrais vous donner une illustration que donne Jonathan Spencer sur ce texte. Imaginez-vous, vous rentrez un soir chez vous, et puis en rentrant, vous vous trouvez face à un chien. Mais il a vraiment l'air en sale état. Il a l'air complètement affamé, mourant. Et vous recueillez ce pauvre chien. Et puis, vous lui donnez à manger. Et puis, vous lui donnez à boire. Et puis, vous lui permettez de dormir sur une couverture au pied de votre lit. Et vous faites ça quelques jours. Et ce chien, vous savez, il va déduire grâce à votre comportement et à juste titre que vous êtes le meilleur, le plus juste, le plus extraordinaire des maîtres qui soit. Et en fait, il va vite comprendre que la meilleure place qu'il puisse avoir, c'est dans votre maison. Il veut être dans votre vie. Il vous sera loyal. Il sera votre ami le plus indéfectible, celui qui sautera sans hésiter une seconde pour vous sauver la vie si vous tombez dans une rivière, celui qui chaque soir vous apportera vos pantoufles, le journal, et il le fera avec joie parce que vous êtes son bon maître. Il est celui qui aboiera devant votre maison pour protéger votre maison. Maintenant, faites la même chose avec un chat. Exactement la même chose. Et ils vont en déduire la conclusion exactement opposée. Il va se dire, « Oh, puisqu'il fait tout ça pour moi, c'est que moi je suis extraordinaire. Quelle chance il a de m'avoir dans sa maison !» Ce que nous voyons dans ce texte, mais aussi dans l'histoire du peuple, mais aussi dans nos propres vies, c'est que malheureusement nous sommes des chats. Alors que Dieu montrait sa fidélité envers son peuple, alors qu'il prenait soin de lui, son peuple s'est soulevé, révolté. Ils ont délibérément ignoré ses commandements. Ils ont tué ses prophètes, ceux qui parlaient de la part de Dieu. Comment dire cela ? Ils ont craché au visage de Dieu. Bien souvent, nous préférons les bénédictions au Dieu qui nous bénit. À la maison, nous avons un chat. Oui, vous savez à quel moment on l'entend miauler ? Le samedi matin. Parce que le samedi matin, je me lève une heure plus tard que d'habitude. Et il est devant sa gamelle, et il hurle, et il dit « Mais ça va pas, non ? Et tu t'es cru chez toi, là ?» Dieu bénit son peuple. Son peuple s'accapare de la bénédiction et oublie Dieu. Quand le malheur arrive, le peuple se souvient de Dieu et il crie. Et ce texte nous évoque toute cette longue séquence du livre des juges. Le peuple abandonne Dieu. Dieu envoie un ennemi. Le peuple crie à Dieu. Dieu envoie un libérateur. Le peuple vit en paix un moment. Il se saisit des bénédictions. Il abandonne Dieu, Dieu envoie un libérateur, et etc. Et un cycle, un mouvement qui s'accélère et des temps de paix de plus en plus courts. Le peuple n'est pas en train de confesser le péché de ses pères. Le peuple n'est pas en train de dire « Ah, si on est là, c'est la faute à tous nos ancêtres qui étaient là avant nous et tout ce qu'ils ont fait ». Le peuple est en train de s'identifier au péché de ses pères. Parce que, comme l'a dit Jean-Claude dans sa prière, si la Bible nous parle de Dieu, elle nous parle aussi de notre condition d'homme déchu. Elle nous parle de nous. Au travers du peuple de Dieu, nous nous découvrons, nous. Nous découvrons qui nous sommes. Nous découvrons nos ressorts. La Bible nous met devant notre incohérence d'avoir un Dieu souverain qui prend soin de nous et de le considérer au mieux comme un serviteur. Celui qu'on prie quand ça va vraiment mal. Celui que l'on ignore parce que nous préférons vivre pour nous-mêmes. La parole de Dieu met à nu nos cœurs, notre façon de penser. Au travers de cette grande histoire de la rédemption, nous voyons notre histoire. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être meurtriers, voleurs, adultères pour être pécheurs devant Dieu, mais que le simple fait d'ignorer celui à qui nous devons tout fait de nous des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. La deuxième chose, c'est que la Bible, la parole, nous conduit à reconnaître notre détresse. Non seulement la confession que nous voyons reconnaît le péché du peuple, mais aussi ses conséquences et la détresse qui en découle. Au verset 32, le peuple évoque la souffrance de son parcours depuis que les Assyriens sont venus lors de la première invasion, et puis ensuite la déportation. Mais tout de suite, en fait, il rappelle que Dieu, lui a été fidèle et que leur sort n'est due que à leur propre péché. Dis, pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé. Tu as fait preuve de fidélité alors que nous, nous étions coupables. Et il rappelle les désobéissances renouvelées de l'ensemble du peuple, des prêtres, des chefs, des anciens, de tout le peuple. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Et ils reconnaissent qu'ils sont aujourd'hui des esclaves. Le fruit du pays, vous savez ce pays qu'ils évoquent où tout était prêt, où les citernes étaient prêtes, les maisons, les vignes étaient là, tout était là. Ils disent, mais en fait, le fruit de ce produit, il n'est plus pour nous, il est pour les peuples environnants qui nous asservissent. Alors que Dieu lui-même leur avait permis de vaincre ces rois pour qu'ils vivent libres dans ce pays. Mais la conséquence de leur péché, c'est qu'ils sont redevenus des esclaves dans le pays de Dieu. Il nous est souvent arrivé, avec les anciens, de rencontrer des personnes qui viennent à nous pour nous voir, pour trouver de l'aide dans les difficultés qu'ils traversent. Et une chose que j'ai remarquée, c'est qu'il est plus facile de reconnaître son péché que son esclavage. Il est plus facile de reconnaître son péché que de renoncer à son péché. Il est plus facile de reconnaître son adultère que de renoncer à l'adultère et au plaisir qu'il procure. Et il est plus facile de renoncer, de dénoncer notre orgueil que d'accepter de perdre la face en reconnaissant nos fautes. Et il est plus facile de comprendre que notre santé est dans les mains de Dieu que de renoncer d'avoir affaire à un guérisseur. Nous reconnaissons notre péché, mais nous aimons notre péché. Nous aimons la vie qu'il nous procure. Nous aimons être esclaves de ce péché. La parole de Dieu nous pousse à détester notre esclavage. J'étais un fumeur, un assez bon fumeur, il y a bien longtemps de ça. Et vous savez quoi? J'ai commencé avec une cigarette, voilà, juste une comme ça, et c'était pas très bon. Mais vous savez, comme c'est pas bon, il faut quand même réessayer une ou deux fois. Et j'ai fumé en n'achetant jamais aucune cigarette. Parce que, ben voilà, bon, les gens fumaient, et puis j'en fumais une avec eux. Puis un jour, vous dites quand même, c'est pas sympa, quoi. Je suis toujours en train de vivre au crochet des gens qui m'entourent. Alors vous achetez un paquet. Et puis ce coup-ci, c'est vous qui distribuez. Puis puisque vous en avez, ben, vous en fumez. Et puis vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui vous pose cette question, et toi, tu peux arrêter quand tu veux? Ben oui, bien sûr. Ça, c'est ce que disent tous les fumeurs, jusqu'au jour où ils essayent d'arrêter. Le péché nous rend aveugles, nous rend esclaves et nous aveugles. Nous ne nous rendons pas compte que nous devenons esclaves. Et une des plus grandes souffrances que nous rencontrons dans l'accompagnement, c'est l'esclavage. Regardez comment termine ce texte. Le peuple reconnaît sa détresse devant Dieu. Le peuple a besoin d'un rédempteur. Nous avons besoin d'un rédempteur. Et la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un rédempteur. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons témoigner exactement de la même façon que ce peuple. Dieu s'est intéressé à nous. Dieu n'a jamais renoncé malgré notre péché. Dieu est venu jusqu'à nous dans la personne de son Fils. Dieu a accepté de payer lui-même le prix de notre péché sur la croix, pour nous libérer de l'esclavage cruel, pour nous libérer de ce que nous croyons qui nous rendons libres, mais qui nous asservit, le péché. Aujourd'hui, chacun de nous, nous avons le choix d'être à nouveau libres. Ce texte nous invite à deux choses ce matin. La première chose, et nous l'avons fait ensemble, à nous lever, bénir le Dieu que la parole de Dieu nous révèle. Nous avons cet incroyable privilège par rapport au peuple de l'époque de connaître Jésus. Bénissons ensemble son nom glorieux. Confessons ensemble qu'il dépasse toute bénédiction, toute louange qu'il peut exprimer. Mais ce texte nous pousse aussi à confesser nos vies devant sa parole, à nous repentir devant lui. Vous savez ce que c'est que la repentance ? La repentance commence par le regret du péché, par le fait de détester son péché et par le fait de se détourner de son péché. Nous regrettons notre péché, pas juste les conséquences de notre péché, nous regrettons notre péché, nous détestons notre péché et nous nous détournons de notre péché. Et nous ne pouvons pas le faire seul, nous ne pouvons le faire que par Jésus-Christ et par sa grâce. Et je vous propose qu'on ait quelques minutes de silence pour que, ensemble, au fond de nos cœurs, nous puissions bénir Dieu, mais aussi faire le point sur nos vies, sur nos fautes, les déposer au pied de sa croix. Ma prière, c'est que ce matin, personne ne reparte chargé de ses péchés. Et peut-être que c'est compliqué pour vous. Et peut-être que ça vous semble ingérable. Et peut-être que l'esclavage est devenu vraiment trop dur et que vous ne voyez pas l'issue à ça. Et vraiment, n'hésitez pas. Venez me voir. Venez voir un des responsables pastoraux de l'Église, un des anciens. Et nous vous accueillerons avec joie et pour vous conduire par la parole de Dieu à comprendre la parole de Dieu et vivre par elle. Je voudrais juste prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous désirons te bénir car toi seul, tu es celui qui a fait les cieux et la terre. C'est toi qui nous a donné la vie. Alors que nous t'avions rejeté, tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui que tu aimes, pour venir jusqu'à nous. Sur la croix, il a payé le prix de mes fautes totalement. Et il a payé le prix de nos fautes. Pas parce que nous le méritions, pas parce que nous avons fait quelque chose de particulier, mais parce que tu es venu nous arracher au maître cruel. Parce que toi, tu as vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre et tu es mort de la façon dont nous aurions dû mourir. Tu as pris sur toi le prix de nos fautes. Et Seigneur, je te prie que aucun de nous ce matin ne reste chargé par son péché. Qu'aucun de nous ne reste avec une vie où le péché nous rend esclaves, nous rend aveugles, nous détourne de toi, nous détourne de ton bon projet. Te prions que tu éclaires nos cœurs par ta parole, qu'au travers de ce que nous avons pu lire ensemble, ce que nous avons pu chanter, tu illumines nos cœurs et tu nous montres s'il y a encore des zones d'ombre. Que nous puissions venir à toi, nous repentir devant toi, nous détourner de notre péché et vivre de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.